Aujourd'hui dans le podcast AWS en français, un retour d'expérience et l'évolution de la stratégie FinOps au sein du groupe Nexity, le premier groupe immobilier de France. Bonjour, bienvenue dans le podcast AWS en français, comme tous les vendredis matins. Merci de nous écouter sur toutes les plateformes de podcast, Amazon Music, Google, YouTube, pour être précis, Apple Podcast, Deezer, Spotify et les autres. Abonnez-vous, comme ça vous recevez le download tous les matins. Aujourd'hui, on va parler FinOps, économie de coûts. Ce sont des épisodes qui sont souvent très populaires et très téléchargés, ceux où on parle d'économie de coûts. Et il y a plein de moyens d'économiser les coûts. AWS vous accompagne d'ailleurs pour vous aider dans cette démarche. Et puis, et beaucoup de grands groupes mettent en place, on en a déjà parlé dans le podcast, des stratégies FinOps, opérations financières. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Xavier Top, qui est responsable du Cloud Center of Excellence, direction des solutions et innovations numériques au sein du groupe Nexity. Xavier, merci d'être là. Pour une fois, on est face à face, on est dans les bureaux de Nexity à Lille. Nexity, c'est quoi, Xavier ?
Oui, bonjour Sébastien. Alors, Nexity aujourd'hui, c'est une entreprise qui est les premiers promoteurs immobiliers de France. Son but est d'agir au cœur de la ville et au cœur de la vie des Français, en restant attentif aux évolutions sociales et économiques. Il a pour but de concevoir des lieux où on vit mieux, ensemble. Son objectif également, c'est de mobiliser collectivement pour agir dans une trajectoire bas carbone. C'est un des principaux objectifs également de Nexity. Et voilà, c'est vraiment, principalement sa motivation aujourd'hui.
Vous avez fait le choix du cloud il y a quelques années déjà. C'est quel type de workload, c'est quel type d'applications qui sont sur AWS ?
Alors effectivement, on a fait le choix de migrer sur AWS depuis nos data centers historiques. Nos applications aujourd'hui sont des applications un peu anciennes, qui mêlent pas mal de technologies comme le .NET, le Java. On a migré effectivement de nos data centers vers AWS en mode lift and shift. Donc vraiment d'un seul coup, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a mis quelques mois quand même pour le faire.
On prend les VM existantes, exactement. Et on redéploie les mêmes VM sans toucher, sans replatformer ou en touchant un minimum.
Si, il y a eu quand même des stratégies de replatforming, il y a eu une stratégie également de suppression de workload qui n'était pas forcément nécessaire.
D'optimisation.
Mm-hmm. Après, effectivement, on en parlera peut-être après, on a fait en sorte que la migration se passe bien, c'est-à-dire que la partie effectivement FinOps on a quand même fait des efforts pour avoir la bonne target, la bonne cible en termes de dimensionnement, mais effectivement on a essayé de faire secure, on va dire ça comme ça, pour pouvoir migrer correctement nos workloads et prendre le minimum de risques possible au moment de la transition.
C'est intéressant ça veut dire que dès le début vous aviez déjà pensé à une stratégie FinOps, dès les débuts de la migration vers le cloud, c'est pas quelque chose qui est venu après.
Alors on a commencé, c'est très basique, c'est-à-dire qu'on a essayé de dimensionner au mieux quand même les infrastructures cibles. On nous a souvent fait ISO quand même par rapport à ce qu'il y avait avant, justement pour limiter l'impact de la migration, de pas faire en sorte que les infrastructures soient moins dimensionnées de cette classe, avoir des problématiques de migration à cause de cette stratégie-là. Mais c'était effectivement un de nos axes également important dans la migration, de penser un peu à minima FinOps pour limiter l'impact financier de la migration.
Ben oui, parce que c'est ça que nos clients nous disent, c'est qu'un lift and shift, c'est facile. Mais ça coûte relativement cher, parce que si on prend une architecture on-prem telle qu'elle, as is comme on dit en anglais, et qu'on la met dans le cloud, en général on paye plus cher dans le cloud que ce qu'on payait avant. D'ailleurs c'est un point sur lequel le cabinet d'analyse Gartner nous a accroché dans son dernier rapport qui est sorti fin de l'année passée, qui a été publié début de cette année. Il disait attention, si vous migrez sur AWS, il y a une tendance à faire du lift and shift, et le lift and shift ça coûte cher. Si on veut vraiment prendre avantage du cloud, il faut optimiser. Alors, quelles sont justement les optimisations que vous avez mis en œuvre dès le début ? Enfin, quels sont les premiers big rocks sur lesquels on peut s'accrocher pour optimiser ?
Alors, le premier levier de toute façon d'optimisation, il est très simple, c'est de faire les réservations. C'est-à-dire qu'effectivement, on a notre cible, on sait qu'est-ce qu'on va provisionner au moment du lift and shift, et il faut faire les réservations nécessaires justement pour profiter au maximum des rabais que nous offre le selling plan, par exemple pour les réservations d'instance.
Donc les réservations d'instance, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'idée de dire je sais que j'aurai besoin, je prends un chiffre quelconque, de 10 instances de cette famille là tout au long de l'année. Plutôt que les payer à la demande à l'heure, je m'engage à payer 1 an, 2 ans, 3 ans, soit tout à l'avance, soit un peu tous les mois, en échange d'un discount, parce que le prix par heure est beaucoup, beaucoup plus bas. Il y a les réservations qui assurent aussi une certaine réservation de capacité en cas de scaling, et puis il y a des saving plans qui sont plus financiers. Un saving plan, tu t'engages à dépenser un certain budget pour un temps donné, c'est ça?
C'est ça. Alors au départ, le saving plan n'existait pas. Donc on était vraiment sur, c'était aux environs de 2018, donc on était vraiment sur des réservations d'instances et de manière très précise. Ça ne nous dérangeait pas. Hein, parce
c'est pas très flexible.
C'est pas très flexible, effectivement. Ouais. Et ça ne nous dérangeait pas parce qu'on savait où on allait lors de la migration. Ce qui est moins vrai aujourd'hui, parce qu'on n'est plus dans la phase lift and shift, mais vraiment dans la phase transformation, c'est vraiment utiliser les services du cloud. Donc forcément, on transforme quelques modèles qui sont très statiques au niveau infrastructure avec des EC2 en modèle plus serverless, par exemple. Donc on a beaucoup plus de mouvements d'infrastructure qu'avant, qui était quelque chose de très statique. Et voilà, enfin, c'était notre premier levier, effectivement, FinOps. Et c'était les réservations d'RDS et de C2.
Ah oui, les réservations, ça ne s'applique pas qu'à EC2, c'est pour les bases de données RDS aussi. Et pourquoi les saving plans sont plus flexibles? Parce qu'ils ne sont pas liés à une catégorie d'instances spécifique. C'est pour tout le compute, donc aussi bien EC2 que Lambda, que CS, etc.
Oui, alors il y a deux types de saving plans. Il y a le saving plans, effectivement, compute, sur laquelle on a un discount beaucoup moins important, mais qui permet quand même de faire du discount. Là, c'est un petit peu de la réservation d'heures pour des infrastructures dont on ne sait pas mettre vraiment dans un saving plan particulier. Et après, on a mis en place des stratégies, effectivement, pour avoir des saving plans sur des types d'instances qu'on utilise fréquemment. Alors, c'est des instances généralistes, hein, c'est du T3, c'est du T2 anciennement, c'est du C4, C5. Voilà, on a mis en place un certain nombre de saving plans au cours de l'année pour pallier justement à la flexibilité de nos workloads, faire en sorte qu'on corresponde bien, qu'on ait un discount par rapport à l'évolution de nos workloads.
Et question piège, est-ce que de tête comme ça, tu as une idée du pourcentage économisé avec les reserve instance et les saving plans?
Alors c'est une bonne question piège.
Non, je m'attendais pas, parce que tu connais tous les chiffres. Mais ça peut être substantiel, ça peut être 20-30% sur la partie compute, hein, pas sur la totalité de la...
Exactement, et c'est un levier qu'il faut prendre en compte, parce qu'en fonction du typologie d'instance qu'on prend, on peut avoir effectivement entre... Alors ça dépend, il y a un grand écart entre Windows et Linux, par exemple, où Linux est beaucoup plus intéressant en termes de saving plan que Windows, parce que Windows, on doit embarquer le prix de licence, exactement. Ouais. Donc le discount est moins important. Mais au niveau des saving plans, on faisait en upfront, c'est-à-dire vraiment, on payait vraiment à l'avance les choses, hein, et on faisait une partie saving plan compute, une partie saving plan vraiment dédié à un type d'instance.
Ce qui est intéressant avec les saving plans, c'est le FinOps, c'est que c'est de l'ingénierie financière pure. Il n'y a absolument aucun changement technique à apporter à l'architecture. Il ne faut même pas arrêter ces instances ou quoi que ce soit. On achète le saving plans ou on achète les reserve instances et automatiquement le nouveau prix s'applique sur la facture. Donc ça, c'était les premières optimisations. Il y en a eu d'autres.
Il y en a eu d'autres par la suite. Effectivement, on a fait une stratégie qu'on a appelée gros caillou.
Big Rocks.
Big Rocks, comme tu dis.
Très à la mode pour le moment.
Parce que justement, dû à notre lift and shift, on avait pas mal de... on a migré d'un point A à un point B sans pour autant tout optimiser. Donc on avait beaucoup de data stockée sur du S3, on avait beaucoup d'instances qui étaient là, mais comme c'était du legacy, on ne savait plus trop à quoi elles servaient. Si elles étaient vraiment utilisées, mais en tout cas il fallait quand même les migrer parce que voilà, il y avait certainement un besoin quelque part, hein. Et on a également regardé un petit peu tout, on a essayé de voir comment optimiser nos petites instances pour qu'ils soient vraiment en correspondance avec nos besoins. C'est-à-dire que par exemple on avait peut-être provisionné du T3X large par exemple pour assurer la migration, et on se rend compte effectivement qu'on ne prend que 10% du processeur et que finalement peut-être qu'une large ou même une médium des fois est largement suffisant.
Est-ce que la visibilité qu'apporte le cloud est un facteur Je m'explique, quand vous tournez on-prem, vous n'avez peut-être pas les mêmes visibilités sur les taux d'utilisation, les taux de CPU, machine par machine, ou enfin machine virtuelle par machine virtuelle, alors que dans le cloud, vous l'avez. Est-ce que ça aide à cibler et à dire, tiens, ça ne sert à rien ou c'est surdimensionné?
Alors, c'est une question qu'on répondra certainement plus tard avec la nouvelle stratégie 2023 à Nexity en termes de FinOps, mais il est vrai qu'il faut se servir des outils que propose AWS. C'est-à-dire que AWS propose un certain nombre d'outils qui nous permettent justement d'avoir une visibilité sur nos coûts sur AWS. C'est notamment le Cost Explorer, c'est notamment AWS Budget, c'est notamment aussi Cost Anomaly Detection, qui vraiment est capable de détecter une anomalie de coût sur une période déterminée. Et tous ces outils-là, effectivement, nous aident à comprendre nos coûts, comment ils sont répartis, que ce soit par business unit ou que ce soit par typologie ou par type de service. Et il ne faut aussi pas hésiter à prendre d'autres outils. On avait un autre outil également qu'on avait provisionné pour avoir une vision un peu plus transverse et un peu plus intelligente, qu'on a abandonné par la suite par un autre outil encore que AWS a fait, mais de manière un peu plus informelle. On en parlera tout à l'heure. Mais voilà, il ne faut pas hésiter à utiliser ces outils qui vous aident à comprendre vraiment comment se répartissent les coûts en fonction de vos applications qui sont hébergées dessus.
Alors, il n'y a pas que le stock, il n'y a pas que le compute, il y a le stockage aussi. Vous avez pu optimiser S3 et EBS.
Ah oui, alors c'est sur la partie S3, c'est vraiment quelque chose qui est flagrant, c'est que on s'est contenté effectivement de faire le lift and shift, de stocker nos données sur S3 ou sur des EBS. Sauf que après, il a fallu travailler la pertinence des données, c'est-à-dire que des données qui ont, je sais pas, des backups de base de données par exemple, qui étaient là avant sur le data center, qui on a migré faute de mieux sur AWS, il faut se rendre compte que est-ce que c'est utile, pas utile, donc il faudra les supprimer. Les données qu'on fait également, qu'on héberge sur les buckets S3 au niveau applicatif, ça peut être des logs, ça peut être plein de choses, ça peut être des fichiers temporaires, il faut savoir les nettoyer, parce que par définition sur un bucket S3, c'est retenu, c'est versionné, etc. Donc il faut mettre en place ces lifecycle policy adéquates en fonction de vos besoins.
Ça implique travailler avec le métier aussi et la conformité légale peut-être pour savoir ce qui peut être effacé, ce qui doit être conservé.
Alors si on est sur purement des éléments techniques, on n'a pas forcément de parler légal. Si on parle vraiment sécurité et légal, effectivement, il faut le travailler, les backups, il faut le travailler également avec l'équipe sécurité et l'équipe également qui est en charge des données personnelles également.
Et donc les lifecycle policies sur S3, ce sont des policies qu'on définit au niveau de la console ou par code évidemment, qui permettent d'effacer automatiquement ou d'archiver automatiquement ou déplacer sur des tiers de stockage moins chers les données froides en quelque sorte, les données dont on n'a plus besoin. Et on parle d'économie en milliers de dollars là.
Oui, effectivement, on s'est rendu compte effectivement qu'on gardait trop de données. Donc on a fait plus de 5000 dollars d'économie
par mois.
Par mois, effectivement. C'est pas négligeable sur la partie vraiment stockage de données sur S3 notamment.
Et alors un truc qui m'étonne toujours, c'est les volumes EBS non attachés. Comment est-ce qu'on en arrive à avoir beaucoup de volumes EBS non attachés?
On en arrive c'est parce qu'on a des process certainement de décommissionnement qui n'étaient pas forcément au point à l'époque. C'est-à-dire qu'on a pensé à supprimer le C2 qui ne servait à rien, par exemple, mais on n'a pas forcément pensé aux EBS supplémentaires qui étaient rattachés à l'époque, parce que le flag de terminaison n'était pas forcément activé. Donc voilà, il y a AWS Config nous a beaucoup aidé là-dessus
pour
faire l'inventaire, de savoir ce qui n'était pas rattaché, et on l'avait configuré au niveau organisation pour pouvoir vraiment avoir une vision de ça sur AWS, sachant que de toute façon le Cost Explorer n'est d'aucune aide par rapport à ça. C'est pas lui qui va nous aider justement à détecter des anomalies justement de configuration de nos workloads. Il y a d'autres outils, notamment AWS Config, qui nous permettent de voir ça. TrustAdvisor aussi, je pense.
Oui, c'est TrustAdvisor. TrustAdvisor qui peut lister des ressources non utilisées,
exactement,
notamment les volumes EBS.
Et il y a aussi le TAM qui nous aide beaucoup là-dessus, le Technical Account Manager, qui est capable effectivement de nous donner des consignes, on va dire ça comme ça, avec le TrustAdvisor, justement, pour dire attention, vous avez des idle load balancer, vous avez des idle snapshot, vous avez des idle, enfin pas snapshot, mais EBS, voilà, qui nous aide justement à optimiser nos coûts sur AWS.
Le TAM, ne cherchez pas dans votre console, c'est pas un service, hein, c'est le Technical Account Manager, comme tu l'as dit. C'est une personne qui appartient dans notre organisation au support et qui travaille avec les grandes entreprises comme Nexity pour faire du support proactif, on appelle ça, pour faire de l'accompagnement technique.
Oui, c'est un peu plus que ça. Hein, c'est pas... Alors, il y a l'accompagnement technique, bien entendu, il y a l'expertise hein, qu'on peut aller chercher, enfin qui peut nous aider à aller chercher. Et il y a également aussi avoir une vision de l'évolution de nos workloads, avoir une vision de l'évolution de notre métier et nous conseiller justement sur les patterns techniques qui peuvent être pertinents par rapport à l'évolution de nos métiers.
Un des services qu'AWS met à la disposition des entreprises ou en tout cas des grands clients. J'avais aussi développé des outils qui permettent à tout un chacun de démarrer, d'arrêter des instances, de voir quelles sont les instances qui l'utilisent.
Effectivement, oui. Au-delà effectivement des saving plans qu'on a mis en place et de tous les mécanismes de base qu'on peut mettre en place au niveau FinOps, on a développé des outils personnalisés pour Nexity qu'on a appelé Stopinator par exemple. Donc c'est une lambda en fait qui est orchestré par un ordonnanceur et qui permet notamment grâce à des tags d'arrêter ou de démarrer des machines sur les comptes hors prod et aussi prod. C'est-à-dire que si aujourd'hui on développe toute la journée sur nos applications, le soir ça m'étonnerait qu'on développe des choses sur nos machines, donc on a décidé de les arrêter et on a quelque chose de flexible, c'est-à-dire que les applications sont capables, les responsables d'applications sont capables de dire bah, sur telle application on travaille de 8h à 19h, sur telle application on travaille de 9h à 15h, sur telle application voilà, on travaille que entre midi et 2. Voilà. Et en fait, en fonction des tags qu'on met en place sur les différentes infrastructures, et bah, le Stopinator va toutes les X minutes aller checker s'il y a des ressources à arrêter ou stopper et va faire le boulot et donc va faire l'effort FinOps nécessaire.
Alors ça a l'air simple comme ça, mais je suppose que vous avez plusieurs comptes, peut-être sur plusieurs régions. Donc
on a une trentaine de comptes, effectivement. On a une trentaine de comptes, mais avec des mécanismes d'assume rôle et des lambdas, on s'en sort très bien.
Stopinator.
Stopinator. On a une autre application effectivement qui est le pendant, qui est un peu plus qui est moins automatisée, qui puisse être à la main des responsables d'application, qui s'appelle NSO, Nexity Start on Demand. Donc c'est un mélange de lambda et d'interface graphique qui permet avec l'aide du Stopinator également d'arrêter ou démarrer les instances à la demande. Donc c'est en même temps du EC2 et en même temps du RDS, tout ce qui peut être démarré et arrêté. Et c'est vraiment le RA qui décide de démarrer son environnement.
Le RA
est responsable applicatif, ou le tech lead. Et ça permet notamment d'arrêter vraiment des instances le soir, et si vraiment il a besoin de son application, 4 jours après, 6 jours après, un mois après, il peut la démarrer de manière autonome.
Pourquoi? Enfin, j'ai une idée de la réponse, mais je dois quand même poser la question. Pourquoi pas donner accès à la console pour cela?
Ça trop demande compliqué. Des compétences particulières et c'est surtout que on a voulu donner la possibilité d'avoir un outil easy to use, surtout parce qu'une application, c'est pas qu'une EC2, ça peut être une EC2, ça peut être une RDS, ça peut être des autoscaling. Donc on a donné un outil capable justement d'intervenir sur l'ensemble des périmètres infrastructure d'une application. Donc quand on dit que par exemple on doit démarrer l'application Toto, eh ben, il va prendre l'ensemble de ces éléments et il va dire démarre-moi tout.
Oui, c'est-à-dire que le niveau d'abstraction que vous exposez, c'est l'application et pas nécessairement la ressource individuelle en dessous.
C'est ça.
Ce qui permet de simplifier. J'ai fait une application similaire sur iPhone pour mon fils qui fait des études, qui utilise de temps en temps des machines virtuelles Linux sur mon compte AWS privé, celui où il y a ma carte de crédit, et donc pour lui permettre à la demande d'arrêter et de redémarrer sans nécessairement avoir accès à toute la console aussi pour les mêmes raisons. Un des points clés dans le FinOps, c'est de voir, c'est d'observer. C'était un des points de la keynote de Werner Vogels à la conférence Reinvent fin de l'année passée. C'est dire, on peut agir que sur ce qu'on connaît et on peut connaître que si on observe et on monitore. Qu'est-ce que vous utilisez? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour observer, pour avoir une vue d'ensemble de votre situation FinOps à un moment donné?
Alors, on a un outil AWS et un outil personnalisé qui permet de faire ce genre de choses. Le Cost Expert nous permet d'observer effectivement nos coûts. On a des alertings Coastal Anomaly Detection qui permettent d'être au courant effectivement des anomalies d'augmentation et de réduction de coûts. C'est pas parce qu'un coût se réduit que c'est bien, c'est peut-être qu'il y a un problème quelque part aussi. Voilà, on est aussi dans l'incidentologie par rapport à ça. Et on a développé également un autre outil, encore une lambda, serverless, qui permet d'attaquer directement le Coast Explorer pour faire un tableau, une évolution des coûts en fonction de notre façon de fonctionner, en fonction des BU, des business units, en fonction des applications, pour se rendre compte de l'évolution des coûts de J-2 à J-9. Parce qu'il faut faire attention qu'AWS à J-0, c'est pas les coûts vraiment réels. Il met quelques jours justement pour avoir vraiment les coûts réels et les prendre en compte. Donc on fait des comparatifs comme ça de J-2 à J-7 et on est capable de voir si par exemple sur un tel périmètre applicatif on a une évolution des coûts de 10%, 20%, etc. Et là on va pouvoir agir par rapport à cette augmentation de coûts. Donc c'est une lambda qui envoie un mail avec un tableau récapitulatif des coûts en fonction des comptes, en fonction des business units, en fonction des applications.
Et vous rendez ces dashboards visibles aussi, ou ces messages au niveau des business units? Est-ce que les business units sont owner en mauvais français?
Alors, ce n'est pas des dashboards, c'est des envois de mails.
Ah oui, ce sont des envois de mails.
Des envois de mails. On a développé des nouveaux dashboards, effectivement, on en parlera sûrement après, sur lesquels, effectivement, les responsables de business units ou même les responsables d'application sont capables d'aller voir leurs coûts applicatifs.
Alors, je reviens deux secondes sur les envois de mails avant de parler des dashboards, parce qu'effectivement, ça touche l'organisation. Envoi de mail, escalation des managers, ouverture de tickets, enfin on peut imaginer l'automatisation très très poussée. À quel stade vous en êtes pour le moment?
Alors c'est justement, ça fera partie de nos évolutions 2023-2024, on va dire ça comme ça. On est très pour l'instant dans l'observation et pas encore dans l'automatisation.
Les dashboarding, donc ça permet de montrer à chacun des acteurs combien il coûte. Est-ce que vous avez dû développer des dashboards particuliers? Est-ce que vous en sortez avec les dashboards fournis par AWS? Première question. Deuxième question, quelle est la granularité de vos dashboards? On a parlé tout à l'heure du Stopinator ou de l'interface web standard qui travaille à la granularité de l'application, ce qui finalement parle aux gens métiers et pas nécessairement la granularité de chaque ressource individuelle.
Alors sur la partie dashboarding, sur la première question, on avait un outil qui est un des leaders du marché qui permettait justement d'avoir la vision par service, par application, par compte de l'ensemble de ces dashboards, sauf que l'outil était complexe à utiliser. Et on s'est rendu compte effectivement que cet outil-là, bien qu'il soit de bonne qualité, n'était pas un outil, malgré le coût qu'on payait, n'était pas un outil vraiment très utilisé et complexe à prendre en compte, à se faire la main dessus. Donc cet outil-là, on a décidé de l'abandonner, parce que ça ne sert à rien de payer un outil s'il n'est pas utilisé. Et on a développé un autre outil, qui est le Cloud Intelligence Dashboard, qui a été créé par des passionnés côté AWS.
C'est ce fameux outil qui utilise QuickSight, que vous devez déployer dans votre compte. Donc vous avez un template CloudFormation pour déployer, il va pomper les données à différentes sources et créer des dashboards QuickSight.
Exactement, que comme on est au CCE, on n'a pas voulu utiliser les éléments clés en main d'Afraas Code. On a voulu comprendre comment il fonctionnait, donc on l'a fait vraiment à la mano pour le coup, pour vraiment comprendre tous les mécanismes du Cloud Intelligence Dashboard et pouvoir être de cette là en maîtrise de l'outil.
Et les équipes métiers ont maintenant accès à leur dashboard personnalisé, chacun pour leur métier?
C'est exactement ça. Aujourd'hui, on a développé donc un portail avec le QuickSight Embedded qui permet justement de donner accès à un certain nombre de personnes. Donc ça peut être des responsables d'applications, ça peut être des responsables de BU, du Business Unit, donner accès justement à deux dashboards particuliers, un dashboard quotidien, qui leur permet d'être alertés justement en cas d'anomalie. Alors le dashboard en lui-même est visible directement en lien privé sur un DNS chez nous, donc sur un nom de domaine, et ils ont la capacité d'enclencher une alerting par mail pour par exemple envoyer ce dashboard là tous les jours à 9h. Donc tous les jours à 9h, ils reçoivent un détail de l'ensemble de leurs coûts sur leur périmètre à eux. Alors ça peut être le périmètre de toute une business unit, ça peut être le périmètre d'une application en particulier. Et de cette là, ils peuvent suivre de manière quotidienne et donc avoir un rituel FinOps pour dire bah voilà, l'évolution de mon coût de J-2, encore une fois J-2 à J-9, c'est 40%, 30%, ou alors on a réduit parce que nos efforts FinOps finalement qu'on a réalisés, bah ça y est, ils payent. Donc on voit effectivement, on a la satisfaction de voir le moins 10%, le moins 5% sur nos coûts AWS. Voilà, ça va dans les deux sens et ça permet une meilleure réactivité au niveau des business units pour pouvoir justement opérer des efforts FinOps sur leurs différents périmètres.
Il y a un vrai changement de mentalité quand on fait ça, quand on vient du on-prem, où finalement le data center c'est des coûts fixes ou en tout cas cachés au métier. Comment vous avez attaqué l'aspect éducation, philosophie? Enfin, il y a certainement du training, mais il y a plus que ça.
Ah, il y a plus que ça, c'est-à-dire qu'il faut, embarquer en fait les équipes dans cette nouvelle stratégie. C'est-à-dire qu'il faut développer une culture FinOps dans l'entreprise. Mmh. Et développer une culture, c'est pas forcément quelque chose qui est très évident. De cette là, il faut un sponsorship. Il faut quelqu'un justement qui nous aide à établir cette stratégie et faire en sorte que les différents responsables de business unit, ou en tout cas ceux qui ont les clés du budget dans les différentes business units, comprennent qu'il faut adhérer à la démarche. Donc il y a eu plusieurs mécanismes qui ont été mis en place par rapport à ça. Il y a notamment eu le fait que ils sont objectivés par rapport aux efforts FinOps à fournir en fonction des BU.
Donc ça fait partie de leur métrique en fin d'année.
Voilà, c'est ça. C'est ça,
c'est il faut faire moins 10% cette année.
Ah, qu'on t'a deviné.
c'est intéressant et j'aime bien cet aspect top-down. Mais comment est-ce qu'on... moins 10% c'est bien si le périmètre est fixe, mais le périmètre cloud il évolue, il y a des nouvelles applications, etc. Donc comment vous calculez le baseline pour ce genre là?
Effectivement, il a fallu développer également une stratégie de calcul de l'effort FinOps, enfin de l'économie FinOps réalisée au cours de l'année. Donc ce qu'on a fait, c'est on a fait pour l'instant quelque chose de très simple, c'est-à-dire que sur tous nos builds, toutes nos infrastructures qu'on a nouvellement buildées sur l'année 2023, on les a taguées avec par exemple Year of Creation égale 2023. Et mettant le tag justement sur ces différentes ressources, on est capable d'analyser les coûts économisés sur les builds avant 2023, par exemple, et voir l'effort FinOps fourni sans prendre en compte les nouveaux builds.
Les nouveaux builds.
Voilà. Et après, on peut effectivement également calculer l'effort FinOps sur les nouveaux builds, mais bon, il sera forcément moindre vu que l'effort FinOps, on le fait déjà sur les nouveaux builds également.
Intéressant. Donc, l'utilisation des tags pour déterminer les baselines. Beaucoup de calculs au niveau reporting. Vous avez une personne dédiée dans l'équipe pour faire ces rapports, pour faire ces calculs?
Alors, ces rapports sont dans QuickSight aujourd'hui, maintenant, avec le Cognitive Dashboard. Donc, on a activé, dans la console AWS, au niveau du Cost Allocation Tag, on est capable d'activer des tags pour que ce soit pris en compte dans le Q-Report. Donc, c'est tout ce qui est... C'est un CSV qui permet de récupérer l'ensemble des coûts AWS dans un fichier plat. Et de cette là, on a intégré le Year of Creation et ainsi également d'autres tags pour permettre justement d'avoir la capacité d'utiliser en fait ces tags dans QuickSight parce qu'ils sont remontés, et de cette là être capable de faire des dashboards par BU, par application, par Year of Creation, et avoir les graphiques nécessaires justement pour montrer les efforts FinOps fournis par les équipes.
Je reviens sur la culture, donc formation, partie des objectifs personnels aussi, donc les personnes sont mesurées, sont responsables, sont owners de ces métriques là est-ce qu'il y a d'autres moyens que vous avez mis en œuvre pour insuffler cette culture FinOps?
Alors, la culture FinOps, effectivement, faut la ritualiser. Faut éduquer les gens justement à cette stratégie-là. Faut les faire comprendre que en faisant telle ou telle action plus ou moins rapidement, on a un effet immédiat ou pas immédiat. Donc, effectivement, les responsables de BU sont objectivés par rapport à ça, mais c'est pas forcément suffisant. Il faut identifier dans chacune des équipes concerner ce qu'on appelle un référent FinOps. C'est-à-dire quelqu'un justement qui va prendre le lead en termes de FinOps, en termes d'opérations financières, dans leur propre business unit ou dans leur propre périmètre. Le CCE ne peut pas tout faire, c'est-à-dire qu'il lui, il gère vraiment la globalité des efforts FinOps à fournir. Il peut ne voir que les gros cailloux, et c'est d'ailleurs, ça fait partie de notre première stratégie, mais il ne peut pas aller dans le détail. Il ne peut pas aller se dire, ah bah cette C2-là, effectivement, on remarque qu'elle ne fait pas grand-chose, et bah, on va la passer par exemple d'une M5 de X large à une M5 X large. Mais c'est sans prendre en compte le contexte métier qui va avec. C'est-à-dire qu'il nous faut quelqu'un, effectivement, dans chaque BU qui dit, bah non, cette M5 de 2X large, finalement, on la garde en 2X large parce qu'à la fin du mois, il y a un traitement qui passe et qui prend vraiment toute la capacité de la machine. Et ça, on ne peut pas forcément le savoir. On n'est pas, pas dans le métier, on ne fait pas les applications pour cette BU-là. Donc on ne peut pas forcément le savoir. Et d'où, effectivement, l'importance d'avoir un référent qui est capable d'analyser ce qui doit être fait en termes d'opérations financières sous son propre périmètre et de pouvoir agir en fonction de la connaissance qu'il a de ce périmètre-là.
Alors on a beaucoup parlé du réactif, c'est-à-dire de ce qu'on fait après qu'une application est déployée, qu'une architecture est déployée. Quels sont les éléments que vous intégrez dans le proactif? Je reviens à la keynote de Werner Vogels à Reinvent. Il parlait de l'architecte cloud d'aujourd'hui et celui qui inclut le coût dans les requirements non fonctionnels d'une application. Comme avant, on avait la stabilité, la disponibilité, la sécurité, tous les IT en anglais. Et Werner disait sur scène, cost, ça doit faire partie maintenant des requirements non fonctionnels d'une application. Est-ce qu'il y a un travail en amont aussi sur vos équipes d'architectes, sur les développeurs, pour les conscientiser, les responsabiliser sur leurs choix techniques?
Donc effectivement, c'est un de nos objectifs en 2024, c'est de penser justement à des architectures qui prennent en compte le FinOps. Donc on est en train de travailler avec nos architectes là-dessus pour que le FinOps fasse partie des analyses des architectures à mettre en place. On a plusieurs patterns aujourd'hui qui sont chez nous qui permettent justement d'avoir ces leviers FinOps. On a des patterns serverless bien entendu, on a des patterns d'auto-scaling avec des applications qui sont complètement stateless, c'est-à-dire qui, par exemple, qui évitent de backupper par exemple et de pouvoir être remonté très rapidement. Donc ça, c'est un élément super intéressant parce qu'il faut se rendre compte également qu'en termes de FinOps, la partie backup et la partie données prend et coûte énormément en fonction de la stratégie qu'on met en place. Et c'est ce qui nous coûte aujourd'hui le plus, sincèrement. Donc vraiment, la partie stratégie de backup, elle est très importante à prendre en compte dans les leviers FinOps également. Et le but effectivement c'est de penser vraiment pattern plus serverless, ça fait partie de notre transformation pour pouvoir justement être capable de vraiment piller la ressource du laisse par rapport à l'utilisation qu'on en fait.
Tu as évoqué ce sujet FinOps sur scène dans un événement que nous avons organisé en 2023 qui s'appelait le Tour du Cloud, qui s'était arrêté ici à Lille. Et un de tes slides qui m'a marqué dans cette présentation s'appelle le rituel du FinOps. Alors moi j'ai complété en disant vers la zénitude du FinOps, mais c'est quoi le rituel du FinOps?
Alors le rituel du FinOps, ça fait partie effectivement de la stratégie FinOps 2023 qu'on a mis en place. Le but c'est de réunir l'ensemble des référents FinOps dans une instance qui dure une heure avec le sponsor justement qui est là justement pour challenger les différents référents, pour définir les priorités, pour résoudre les conflits qu'ils soient budgétaires ou autres.
Le sponsor il vient du CCO?
Le sponsor c'est le CTO côté Nexity qui est Laurent Dierson et c'est lui qui a les clés du budget également à AWS, hein, donc voilà c'est lui qui donne les directives. Et le but de ce rituel, il est très simple, hein, c'est donc de réunir l'ensemble des référents FinOps dans une instance d'une heure, de parcourir l'ensemble des coûts AWS selon les BU, pour montrer les efforts FinOps à fournir par rapport à différentes BU, où est-ce qu'ils en sont, est-ce que les efforts FinOps sont payés, etc. On montre également les coûts globaux pour savoir si la tendance globale des coûts AWS ont tendance plutôt à baisser ou à augmenter. Et s'ils sont augmentés, bah, on essaie de comprendre pourquoi ils ont augmenté. Parce que ce n'est pas parce qu'une BU baisse son coût qu'une autre BU a pas son coût qui augmente. Hein. Donc voilà, on regarde également la tendance globale.
Oui, ça peut être tout à fait normal d'augmenter les coûts. Il y a plus d'activités,
oui, voilà,
il y a des nouvelles applications.
De nouveaux projets, par exemple, aussi. Donc voilà, il ne faut pas non plus s'alarmer. Qu'est-ce qu'on a mis d'autre en place aussi? On parle beaucoup des RESA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les réservations des saving plans et des réservations RDS, on ne les fait que deux fois par an. Une fois en décembre et une fois en août. Parce qu'on ne veut pas passer notre temps à faire des réservations. Mm-hmm. Certains le font. Nous, on trouve que la stratégie n'est pas forcément pertinente. Donc, on ne le fait que deux fois par an et on le fait bien. C'est-à-dire qu'on réanalyse tous les SI pour déterminer effectivement les nouvelles réservations à fournir. Et ce qui est intéressant, justement, c'est que les référents FinOps, comme ils font partie maintenant de l'équation, nous projettent sur, justement, qu'est-ce qu'ils vont utiliser demain, dans trois mois. Ah non, cette RDS-là, elle n'est plus utilisée, ça ne sert à rien de réserver. Cette RDS-là va évoluer, on passe d'une MariaDB à une Postgre. Voilà, tout ça, avant, on ne pouvait pas le savoir. Mm-hmm. Et grâce à cette culture FinOps, grâce à ces réunions, ce rituel, justement, FinOps que tu parles, on discute. On parle, on se projette et on est capable justement d'avoir un meilleur aperçu de comment évolue notre SI et comment faire les efforts FinOps associés par rapport à l'évolution de ce SI.
C'est une question de communication finalement, de savoir.
Toujours, mais c'est un gros effort dans la culture FinOps et dans la stratégie FinOps. C'est la communication, c'est de partager notre expérience aussi, de partager nos erreurs également, parce qu'on en fait bien entendu, nous sommes des humains. Et le but effectivement, c'est que il y a deux référents FinOps qui passent dans ce rituel. Donc dans toutes les deux semaines, on a une heure avec eux. Et dans cette séance, tu as deux personnes qui passent et qui présentent leurs résultats. Ils présentent ce qu'ils ont fait, ils présentent ce qu'ils projettent de faire. Et ça nous permet d'avoir une meilleure vision des efforts FinOps à venir et comment on peut les aider également. Parce que c'est des profils techniques, certes, mais qui ont certainement besoin d'aide pour comprendre pourquoi je ne peux pas passer sur telle instance, pourquoi on ne changerait pas d'architecture, il faudrait nous aider par rapport à ce genre de choses. On a rencontré tel problème de migration, par exemple d'anciens types d'instances de M4 à M5, parce qu'il faut mettre en place des upgrades de drivers, etc. On n'a pas compris pourquoi, donc on leur explique. Et donc voilà, on a ces rituels-là et ils partagent aussi les erreurs qu'ils ont rencontrées, les problématiques qu'ils ont rencontrées qui peuvent servir après à d'autres.
Donc c'est vraiment un retour d'expérience croisé, mutuel, que ce que vous avez fait, que ce qu'on a fait, que ce que ça a donné, en plus du suivi plutôt comptable.
En plus du suivi, de la descente également d'informations qu'on fait par rapport aux réservations. Par exemple, sur un saving plan, on est à 95% ou on est à 80%. On sait qu'on a de la marche du M5 ou du T3, on leur dit, comme ça ils peuvent se projeter dans les buts qui vont arriver.
Quels sont les impacts maintenant que vous avez mis ça en place
depuis un an.
Quels sont les impacts mesurables que vous voyez?
Il y a eu des impacts notables, c'est-à-dire que, comme je disais, le référent FinOps connaît son métier, connaît son périmètre applicatif, connaît son périmètre technique. Et de cette là, on a eu des surprises dans cette stratégie-là. C'est-à-dire que, par exemple, on a demandé de vérifier sur telle application l'effort FinOps à fournir. Et on s'est rendu compte, par exemple, qu'on avait un environnement QA2 qu'on ne se servait pas depuis un an. Donc, boum, 30% de la facture qui tombe.
Wow.
Parce qu'effectivement, ils n'étaient pas dans le match, ils n'étaient pas concernés. Maintenant, on leur a dit de vérifier, on leur a demandé d'investiguer. Ils ont investigué, ils se sont rendus compte que ça, c'était plus utilisé, ça pouvait être optimisé, ça pouvait être mis sur un autre serveur, et de cette là, on pouvait supprimer une instance. Donc voilà, l'effort finalement collectif paye par rapport à l'effort individuel que faisait avant le CCOE.
Et là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, la visibilité qu'on a dans le cloud. Et la facture est un élément de la visibilité aussi, parce que dans un data center on-prem, on peut avoir ce serveur qui traîne, qui est allumé depuis 5 ans, qui ne sert à rien. Personne ne va jamais voir parce qu'il n'y a pas de monitoring, parce qu'il n'y a pas de facture liée.
Et puis on n'est surtout pas parce que ça marche.
On ne sait pas. Oui. Moi, j'avais une stratégie quand je travaillais dans les data centers et qu'on ne savait plus, on coupait le réseau, on enlevait les prises réseau. Et si personne ne se plaignait après une semaine ou deux, on éteignait vraiment. Et puis si encore personne ne se plaignait quelques mois après, on enlevait.
C'est la meilleure stratégie.
On peut faire la même chose sur AWS aussi. On éteint. Et votre opinator fait ça, peut-être aussi éteindre. Mais lui, il est
encore faut-il identifier. Voilà, faut l'identifier.
D'autres résultats?
Il y a eu d'autres résultats. On a pas mal optimisé, effectivement, en termes de S3 aussi. On a mis en place les bonnes lifecycle, par exemple. On a optimisé toute la partie RDS également avec leur concours. C'est-à-dire qu'on a migré toutes nos RDS en Graviton. Mm-hmm. Faire en même temps du FinOps et du GreenOps.
Et du GreenOps,
exactement. Mm-hmm. C'est dire qu'on a la même chose à moindre coût. On va dire ça comme ça, parce que Graviton est réputé, comme tu disais ce matin dans ton podcast, plus performant et un peu moins cher. Mm-hmm. Donc voilà, on est en train de migrer. On a eu des impacts quand même techniques, c'est-à-dire qu'il faut pas... quand on migre par exemple sur Graviton, il faut faire attention que nos moteurs de base de données soient à jour. Donc des fois, on avait des moteurs de données qui étaient moins à jour et il a fallu faire les upgrades. Et les upgrades ont des fois un impact au niveau applicatif, c'est-à-dire qu'il faut des fois mettre à jour les oui. paramétrages d'application, les chaînes de connexion, ce genre de choses. Donc voilà, il ne faut pas non plus se dire que c'est magique. Il faut faire attention quand on fait des migrations vers Graviton que les moteurs de base de données soient à jour et que l'impact de cette mise à jour soit bien mesuré.
Que sur RDS ou sur EC2 aussi? Parce que je suppose, tu l'as dit au début, vous avez beaucoup d'applications Java. Une application Java, ça peut tourner sur Graviton sans aucun changement?
Alors, on a des applications Java, on a du Docker aussi, mm-hmm. pas mal, on a de la containerisation. L'impact est un peu plus à mesurer parce que les dépendances sont à prendre mm-hmm. en compte. Quand on prend en compte des conteneurs Java ou des conteneurs Python, on a des librairies par exemple qui doivent être changées pour être compatibles ARM. Mm-hmm. Et ça, c'est pas forcément anodin, ça demande pas mal de rework mm-hmm. et c'est moins facile à mettre en place que sur la partie RDS mm-hmm. où là effectivement c'est un service manager, c'est Amazon qui gère tout, donc ça doit fonctionner.
Et c'est transparent pour l'application.
Et c'est transparent pour l'application.
Si la version de la base de données est la
Exactement.
Même, effectivement.
On est en train de démarrer aussi sur la partie Lambda. On l'a fait sur quelques assets en Graviton, ça fonctionne bien. Donc voilà, il faut juste faire attention aux layers et à nos librairies, mais ça fonctionne plutôt bien.
Oui, en général, c'est ça. C'est les librairies qui ont du code compilé qui pourraient ne pas fonctionner sur une architecture ARM si les librairies ont été compilées pour de l'X64. Je dois poser la question multi-cloud aussi. Vous utilisez principalement AWS ou que AWS et comment vous adaptez cette stratégie FinOps aux autres cloud providers?
Alors, sur la partie AWS, on a à peu près 90% de nos workloads.
Donc, principalement AWS.
Ou même 95% de nos workloads. On a quelques assets sur Azure, mais pas énormément. On est en train de regarder pour intégrer Azure dans la partie Cloud Intelligence Dashboard. Comme ça, on aura une vision consolidée de l'ensemble de nos cloud providers. Il faut savoir que la stratégie FinOps qu'on a mis en place, et ça, on ne l'a pas encore dit, c'est qu'elle n'est pas forcément orientée cloud. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la partie FinOps, elle est aussi orientée Datadog, elle est aussi orientée au niveau de notre réseau, elle est aussi orientée au niveau d'autres produits qu'on utilise chez Nexity pour faire des transferts de fichiers. Par exemple, sur certains outils, sur le transfert de fichiers, on est payé au nombre de gigas transférés, et on a mis en place des processus
pour monitorer, pour visibiliser.
Visibiliser, monitorer et aussi compresser. C'est-à-dire on a remarqué effectivement qu'on payait beaucoup trop cher parce qu'on ne compressait pas. On a compressé et nos coûts ont descendu aussi. Donc la stratégie FinOps ne doit pas être vue forcément avec l'aspect cloud. Elle doit être vue de manière globale. C'est vraiment de l'optimisation financière de manière globale.
Très intéressant. C'est la première fois qu'on aborde ce point global. Alors, multi-cloud, ça a du sens, mais également on-prem également. C'est peut-être un atout du cloud de rendre les coûts plus visibles et puis de se dire on va généraliser nos stratégies d'économie de coûts à d'autres choses que le cloud aussi.
Tout à fait. Là, on l'a fait sur Datadog notamment, parce que c'est notre outil d'observabilité, où on s'est rendu compte qu'il fallait optimiser la rétention de nos logs, il fallait optimiser l'utilisation de nos agents, il fallait optimiser l'utilisation des outils comme de l'APM, etc. Donc voilà, il y a beaucoup de leviers à prendre en compte et pas que des leviers AWS.
On enregistre ce podcast début 2024, il sera publié au premier trimestre 2024. Comment tu vois le futur? Quels sont les chantiers que vous avez cette année?
Alors, les chantiers qu'on aura cette année seront sur les continuer de faire évoluer nos outils de reporting, d'observabilité. Aujourd'hui, les responsables d'application ou les responsables de business unit savent enfin combien coûte leur application. Et le but, ce sera aller un peu plus dans le détail pour qu'on puisse mener les actions un peu plus ciblées. On a des actions, par exemple, sur les VPC endpoints qui peuvent être centralisées. On a des actions sur la rétention des logs. On peut avoir des actions sur le trafic également inter-VPC. Voilà, on peut enfin aller dans le détail maintenant que chacun, effectivement, se rend responsable des coûts sur leur périmètre. Le CCE peut enfin prendre un peu de hauteur et adresser peut-être des sujets un peu plus techniques, un peu plus approfondis pour aller chercher des économies un peu plus difficiles à atteindre.
Aller chercher les derniers pourcents, les petits cailloux qui sont plus difficiles, qui mettent plus de temps
à analyser, exactement.
Et où le retour sur investissement est peut-être moins grand immédiatement, en tout cas. Enfin, l'effort à faire par rapport au pourcentage économisé est plus grand.
C'est ça. On est en train également de mettre en place un nouveau Stopinator sur nos deux parties Kubernetes aussi. Parce que, comme je disais, voilà, il faut aller vers le FinOps aussi, vers les éléments qui sont hors AWS. On a des Kubernetes qui existent aujourd'hui, qui ne sont pas utilisés le soir, donc il n'y a aucune raison de les garder actifs toute la nuit ou même le week-end. Donc voilà, on est en train de travailler là-dessus. On est en train de travailler aussi sur continuer à faire évoluer notre stratégie, notre culture FinOps. C'est un combat du quotidien pour motiver les troupes, pour motiver les gens à effectivement faire ce qu'on leur demande de faire, parce qu'ils ont d'autres choses à faire à côté, ça se comprend. Donc c'est pas parce qu'on a mis une stratégie, c'est pas parce qu'on a identifié des référents FinOps que tout va fonctionner également en 2024 de la même façon. Il faut garder la dynamique, il faut garder effectivement cet effort justement à aller chercher l'information, à aller chercher les économies à faire et à continuer à les accompagner justement pour qu'ils comprennent et pour qu'ils mènent les actions nécessaires justement par rapport à leur propre périmètre.
C'est ce qu'on appelle des mécanismes chez Amazon. Jeff Bezos une fois avait dit les bonnes intentions, ça ne marche pas. Tout le monde a des bonnes intentions. Tout le monde veut payer moins cher ou bien faire son boulot. Mais parfois, ça se noie dans la masse des autres choses qu'on a à faire. Et donc, il faut mettre des mécanismes en place pour que ça soit systématique et que ça soit automatique. Retour d'expérience, évolution de la stratégie FinOps chez Nexity. Une question de culture d'entreprise. C'est pas évident, tu as dit, à faire bouger la culture. Il y a des mécanismes à mettre en place. Et ça va bien au-delà des premiers gros cailloux, les optimisations relativement faciles, je mets quand même des guillemets, mais relativement évidentes à faire dès le début, comme l'optimisation, le nettoyage d'S3, des buckets, là où il y a des gros retours immédiats. Mais aller plus dans le détail.
Dans le détail, dans l'automatisation aussi.
Et dans l'automatisation. L'automatisation,
l'automatisation est un élément clé, effectivement, à prendre en compte. Et il y a deux éléments clés. Il y a la partie ITSM aussi, ticketing, justement, pour suivre, être capable de suivre l'évolution et enclencher les actions par rapport à ces efforts FinOps à fournir. Ça, c'est une des choses qu'on a mis en place en 2023. Et là, on est en train d'étudier vraiment d'automatiser, par exemple, agrandir un EBS, voilà, on peut, ou diminuer un EBS, on peut l'automatiser, changer le type d'instance d'une M5 X large à large, il faut arriver à l'automatiser. On est en train de creuser les différentes stratégies chatops, par exemple, c'est-à-dire faire ça depuis Teams, depuis Slack, voilà, pour donner justement la capacité à d'autres équipes que les technicals, que les tech leads ou que les SWU à pouvoir agir sur le périmètre avec l'accord justement des personnes concernées. Par exemple, on identifie une machine effectivement qui est en X large, qui ne sert pas à grand chose, qui est au-delà de ses capacités, enfin dont on utilise plus la capacité, moins la capacité qu'on lui donne, et on donnera la légitimité à une équipe de dire, grâce à cette commande dans Teams, tu vas pouvoir diminuer automatiquement cette machine de X large à large, et puis voilà, ça va être fait en 5 minutes plutôt que de faire des process longs qui vont durer un mois, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que plus on tarde à faire l'action, plus ça coûte cher.
L'automatisation des process FinOps pour 2024. Oui. Xavier Taub, responsable du CCO chez Nexity, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous d'avoir écouté le podcast AWS en français jusqu'au bout. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. On parlera des nouveautés des deux dernières semaines. D'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.